Bonjour à tous. Merci pour vos prières, comme d'habitude. Il fait un peu chaud aujourd'hui, donc je vais essayer de parler un peu plus vite, mais je ne peux pas, promis. Nous poursuivrons notre lecture de Philippiens aujourd'hui avec Philippiens 1, versets 27 à 30. Philippiens 1, versets 27 à 30. Et avant tout, lisons le texte et prions à nouveau pour que Dieu nous enseigne à travers sa parole. Philippiens chapitre 1, versets 27 à 30. Voici la parole du Seigneur. Seulement conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile du Christ, afin que soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entende dire de vous que vous demeurez ferme dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'évangile, sans vous laisser aucunement intimider par les adversaires. C'est pour eux une preuve de perdition, mais pour vous de salut, et cela de la part de Dieu. Car il vous a été fait la grâce non seulement de croire en Christ, mais encore de souffrir pour lui, en soutenant le même combat que vous m'avez vu livrer et que vous l'apprenez, je livre encore maintenant. Prions. Merci mon Dieu. Merci mon Dieu pour ce jour. Merci mon Dieu pour cette opportunité d'être ensemble et de te louer. Sois avec nous ce matin. Parle envers ta parole. Et malgré ma faiblesse, malgré la faiblesse de ma langue, parle envers moi. Parle envers ta parole. Nous voulions voir Jésus. Amen. Amen. Je sais que mes enfants ne seraient pas d'accord, mais parfois, c'est un soulagement quand on vous dit simplement ce qu'il faut faire. Cela permet de ne pas se poser des questions et de faire ce qu'on vous demande en sachant que vous avez satisfait la personne qui vous a demandé de le faire. Les maris comprendront. Dans les 30 premiers versets de l'Épître aux Philippiens, que nous avons étudié ensemble, c'est le premier passage qui contient des ordres directs à suivre. Certaines instructions sont faciles à suivre, comme arriver à l'heure au travail ou va nous acheter une pizza pour le dîner. Mais que faire quand les ordres peuvent être interprétés de manière plus vague? Que signifie réellement vivre pour Jésus ou vivre d'une manière digne de l'Évangile? Nous allons devoir faire un peu de travail aujourd'hui pour mieux comprendre. Comme la plupart d'entre vous le savent, j'aime structurer mes sermons, mes messages en trois parties. D'habitude, nous résumons le texte en observant simplement ce que le passage dit. Ensuite, nous interprétons le sens et cherchant à comprendre le texte plus profondément au-delà d'une lecture superficielle. Et enfin, nous appliquons la parole de Dieu à notre propre vie en suivant les exemples qui nous sont donnés et en obéissant à ses enseignements. Ce sont là de bonnes étapes à suivre, même lorsque vous faites votre propre étude biblique. Et il ne suffit jamais de lire l'Écriture comme un exercice philosophique ou une leçon d'histoire, car chaque mot de la Bible est Dieu qui s'adresse directement à nous. C'est sa propre révélation et sa lettre d'amour à ceux qui le suivent, comme il dit en 2 Timothée 3, 16. Si Dieu séparait les nuages, il faisait apparaître son visage et vous appelait par votre nom, ce serait pas plus une révélation que ce qu'il nous a déjà donné dans sa parole. Cela vaut donc la peine de faire un petit effort pour comprendre ce qu'il nous dit et ensuite d'obéir. Ok, la première de nos trois étapes, faisons quelques observations. Comme je l'ai mentionné plus tôt, jusqu'à présent, Paul a essentiellement introduit l'Épître sans donner d'exigence explicite aux Philippiens. Il a salué l'Église de Philippe et présenté sa propre situation, mais il ne leur a pas encore dit ce qu'ils devaient faire. Maintenant, dans cette brève section qu'on a aujourd'hui, il donne aux Philippiens beaucoup de choses à déballer. Chaque mot écrit dans ces quatre verset renforce l'exhortation de Paul à se comporter d'une manière digne de l'Évangile. Et il y a trois façons de manifester cette vie digne. Relisons le passage. Verset 27. Seulement conduisez-vous d'une manière digne de l'Évangile du Christ. Voici la commande. Afin que, soit que je viens vous voir, ou soit que je reste absent, et souvenez-vous cette vacillation entre la mort et la vie, j'entends dire de vous que vous demeurez ferme dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'Évangile. C'est l'un des moyens pour les Philippiens de vivre dignement. Combattant d'une même âme pour la foi de l'Évangile. Verset 28, sans vous laisser aucunement intimider par les adversaires. Notre deuxième façon de vivre, c'est pour eux, les adversaires, une preuve de perdition, mais pour vous, Philippiens et chrétiens, de salut. Verset 29. Et cela de la part de Dieu, car il vous a été fait la grâce non seulement de croire en Christ, mais encore de souffrir pour lui. Et voilà la troisième étape. Verset 30. En soutenant le même combat que vous m'avez vu livrer et que vous l'apprenez, je livre encore maintenant. Et selon le verset 30, nous voyons que Paul considère la vie digne de l'Évangile comme un combat. Ce que nous pouvons observer ici, c'est que Paul s'attend clairement à des conflits dans la vie chrétienne, qu'il s'agisse de persécutions extérieures, bien sûr, ou de luttes antérieures. Et il encourage les Philippiens à s'engager dans le bon combat. Donc, le thème central de ce passage est l'encouragement des Philippiens à vivre de la manière dont Dieu veut qu'ils vivent, et nous, par extension, comme chrétiens. Puisque nous savons que la parole nous dit ailleurs que nous ne sommes pas dignes de l'Évangile ou de notre salut, et qu'il n'y a rien que nous puissions faire pour gagner notre salut, cette vie digne consiste simplement à obéir au commandement du Seigneur. Et Paul décrit trois moyens que nous avons déjà mentionnés pour que les chrétiens mènent une vie obéissante. 1. Être unis ensemble pour la promotion de l'Évangile. Nous avons vu cela au verset 27. 2. Défendre l'Évangile. Verset 28. Et 3. Souffrir pour l'Évangile. Verset 29. Ce sont les trois façons dont les chrétiens peuvent se comporter d'une manière digne de l'Évangile que nous croyons. Et c'était donc assez facile à déduire d'une lecture rapide du texte, mais maintenant que nous avons fait un petit résumé, nous ne pouvons pas en rester là. Il reste encore plusieurs termes à définir et à comprendre. Donc si le thème principal de ce passage est l'encouragement de Paul à vivre de la manière dont Dieu veut que nous vivions, alors nous devrions être désespérés de comprendre correctement la volonté de Dieu afin de pouvoir lui plaire. Par exemple, j'aime beaucoup mes enfants, c'est évident, j'espère. J'aime beaucoup mes enfants et cela ne changera jamais, quoi qu'ils fassent. Mais si je leur dis qu'ils me feraient plaisir en arrachant les mauvaises herbes dans le jardin et qu'ils sortent plutôt pour crever les pneus de ma voiture, je ne serai pas content d'eux, évidemment. Même si je leur ai demandé d'arracher les mauvaises herbes et qu'ils décident de couper l'herbe en même temps que les mauvaises herbes, quelles que soient leurs bonnes intentions, ils n'ont pas fait ce que l'on attendait d'eux. Nous devons faire attention à ce que notre relation avec Dieu ne consiste pas à lui désobéir avec de bonnes intentions. Je pense que chacun de ces trois exemples fournis par Paul peut être gravement mal interprété. C'est pourquoi je voudrais prendre le temps de clarifier ce que Paul veut dire exactement par être uni, aussi ne pas se laisser intimider par les adversaires et enfin souffrir. Le mot souffrir. Ok. L'unité, c'est écrit au verset 27. Soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entends dire de vous que vous demeurez ferme dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'Évangile. L'unité. L'unité est un mot très compliqué, je pense, et il existe de nombreuses interprétations de ce que signifie l'unité. Nous, chrétiens, sommes parfois obsédés par l'unité et en faisant notre but ultime plutôt que la proclamation de l'Évangile. Quand j'étais stagiaire dans une église aux États-Unis, il y avait une autre église qui démarrait et qui avait besoin d'un endroit pour se réunir. Alors, l'église utilisait notre bâtiment le samedi soir. Et l'église s'appelait Unity Church, ou l'église d'unité. Et l'église était fondée, toute sa vision du ministère, sur l'unité des chrétiens et aussi la réconciliation raciale. Mais malheureusement, ils n'ont pas réussi à atteindre l'unité et l'église s'est dissoute depuis. Parce qu'on a notre idée de ce qu'est l'unité, mais la Bible a beaucoup à dire sur l'unité et le fait d'être d'un seul accord. Lisons donc quelques versets qui éclairent ce que cela signifie. 1 Corinthiens 1, 10. Je vais lire. Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, tenez tout le même langage, qu'il n'y ait pas de division parmi vous, mais soyez en plein accord dans la même pensée et dans la même opinion. Et puis Éphésiens 4, 11 à 13. C'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, verset 12, pour le perfectionnement des saints, cela en vue de l'œuvre du service et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite du Christ. Ensuite, 1 Pierre 3, 8. Enfin, ayez-vous la même pensée, les mêmes sentiments. Soyez remplis d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. Et bientôt, nous entendrons Philippiens 2, 2. Mettez le comble à ma joie afin d'avoir une même pensée et un même amour, une même âme, une seule pensée. Remarquez que ces appels à l'unité sont des appels à être unis dans leur intelligence, à avoir les mêmes pensées. Si quelqu'un se dit chrétien, mais a des désaccords sur les aspects les plus fondamentaux du christianisme, tels que l'identité de Jésus ou la manière dont une personne peut être sauvée, alors nous ne pouvons pas être unis avec eux. Rappelez-vous les prédicateurs dont Paul a parlé plus tôt dans le chapitre, au verset 15 à 18, Paul ne les a pas dénoncés parce qu'ils prêchaient toujours la vérité. Même s'ils n'étaient pas d'accord avec lui, avec Paul, et le critiquaient activement, ils continuaient à prêcher le seul vrai évangile. Donc, on n'est pas obligé d'être d'accord sur tous les points avec nos frères et sœurs, mais on ne peut pas être unis si on ne prêche pas le même évangile. On doit être unis par la vérité, et pas seulement par l'affection que l'on a les uns pour les autres. Un autre exemple, j'aime beaucoup ma femme, et j'espère que c'est évident encore, j'aime beaucoup ma femme et j'ai beaucoup d'affection pour elle, mais notre mariage ne dépend pas uniquement de ces sentiments d'affection. On est unis dans une alliance qu'on a faite devant Dieu, et Dieu a défini ce qu'est le mariage. Donc on est unis dans la vérité de l'alliance de Dieu. L'unité avec les autres croyants est encore plus importante que le mariage. Nous ne pouvons pas être unis simplement parce que nous utilisons tout le mot « chrétien » pour nous décrire. Je sais que c'est difficile quand si peu de gens dans notre pays, ici en France, disent même qu'ils sont chrétiens, mais nous ne pouvons pas être trompés par une fausse unité face à l'adversité. Cette unité finira toujours par échouer et s'effondrer lorsque les vrais problèmes viendront. Les saints des derniers jours ou moments se disent chrétiens, mais rejettent les enseignements clairs des Écritures chrétiennes et les remplacent par leur propre vérité. Les témoins de Jéhovah font de même, ajoutant et retrachant des éléments à la parole de Dieu et créant leur propre version de la vérité. Et il y a d'innombrables autres sectes chrétiennes et individus que vous allez rencontrer qui nient les enseignements clairs de l'Écriture et Il est impossible d'avoir une véritable unité avec de telles personnes. La première dispute que j'ai eue en français, et je suis encore fier de moi-même après 2 ans, était avec quelqu'un qui croyait que Jésus n'était pas ressuscité physiquement. C'était une chrétienne qui pensait que Jésus n'était pas ressuscité physiquement, mais qu'il était simplement un esprit marchant sur terre après sa crucifixion. Il s'agit d'un rejet clair de la vérité biblique fondamentale, et donc nous ne pouvons pas nous considérer comme unis. Considérez ceci, Romains 12, verset 2. Romains 12, 2. Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Pour nous être semblables, nos pensées doivent toutes être transformées par la vérité. Nous devons changer pour correspondre au dessein de Dieu. Et ce n'est qu'alors que nous pourrons être unis pour l'Évangile, parce que nous serons devenus ce qu'il veut que nous soyons. Ainsi, chacune des exhortations suivantes de Paul dépend de l'unité dans la vérité. Nous ne pouvons pas lutter pour l'Évangile si nous ne sommes pas d'accord sur ce qu'est l'Évangile. Nous ne pouvons pas rester inébranlables quand nous sommes persécutés si nos compagnons s'éloignent de nous parce que nous ne croyons pas la même chose. Et nous ne pouvons pas souffrir ensemble pour Christ si nous ne sommes pas, même pas d'accord sur qui est Christ. La précision doctrinale précède l'unité. Et ce n'est pas manquer d'amour ou de loyauté que de se séparer de personnes qui se disent chrétiennes, mais ne sont pas unies dans la vraie foi. J'ai été mal vu par certains aux États-Unis et ici, mais j'ai été mal vu par certains parce que je ne voulais pas me joindre à eux pour évangéliser ou même pour prier. Mais ces mêmes personnes qui pensent que je suis un agent de division, et peut-être c'est vrai, mais ces mêmes personnes qui pensent que je suis trop sectaire, ne peuvent pas articuler le message de l'Évangile, qui est lui-même, l'Évangile, un obstacle de division. Et si quelqu'un vous demande de partager l'Évangile avec lui et les limites de sa théologie sont « Jésus t'aime », courez dans l'autre direction. C'est mon avis. Mais soyez unis dans vos esprits, dans vos cœurs, dans la vérité pour la cause de l'Évangile. Ensuite, seulement conduisez-vous d'une manière digne de l'Évangile du Christ, verset 28, sans vous laisser aucunement intimider par les adversaires. C'est pour eux une preuve de perdition, mais pour vous de salut. Ne vous laissez pas intimider par vos adversaires. Le simple fait d'avoir des adversaires implique que vous êtes dans une bataille. Chrétien, les ennemis que tu combats ne veulent pas que tu vives une vie digne de l'Évangile. Tes ennemis ne veulent pas que tu suives Christ et que tu lui obéisses. Tes ennemis te détestent. Mais qui sont nos ennemis? Avons-nous chacun nos propres rivaux qui rendent notre vie chrétienne plus difficile? Mon ennemi est-il mon voisin qui se moque de moi lorsqu'il me voit quitter ma maison le dimanche matin pour aller à l'église? Ou est-ce le gouvernement qui établit des lois et des restrictions pour empêcher la liberté d'adorer Dieu? Ou est-ce la foule violente qui veut débarrasser le monde des chrétiens par tous les moyens nécessaires? Dans le contexte immédiat de l'église de Philippe, il y avait en effet des ennemis qui voulaient voir le christianisme disparaître. Les païens romains et les juifs religieux, tous deux menacés par la nouvelle voie, ont fait de leur mieux pour arrêter les chrétiens par des moyens légaux ou non, ou violents. Le mot adversaire utilisé dans ce passage signifie simplement ceux qui sont contre nous. Aujourd'hui, il y a des gens qui s'opposent à nous et à la vraie religion. Dans le monde entier, les chrétiens sont victimes d'une horrible persécution. Depuis 2009, plus de 50 000 chrétiens seulement en Nigérie ont été tués. La Corée du Nord ne punit pas seulement les chrétiens, mais emprisonne également 3 générations de leur famille. En Chine, les chrétiens sont contraints de pratiquer leur culte dans des églises d'État qui vénèrent en réalité le Parti communiste. En France, les chrétiens et Christ sont régulièrement moqués, et aux États-Unis, les hommes politiques se font passer pour des chrétiens afin de manipuler la population en lui faisant croire qu'ils sont de bonnes personnes. Ce sont eux qui s'opposent évidemment à nous. Ce sont eux qui nous intimident. Pourtant, il y a ceux qui nous font la guerre et qui ne savent même pas qu'ils sont en guerre. Mais ils restent des adversaires. Par exemple, le membre de la famille bien intentionnée qui veut que vous sautiez l'église le dimanche pour que vous puissiez lui rendre visite. Ou l'ami que vous avez depuis l'école primaire et qui pense que vous êtes un peu trop exclusif quand vous dites que Jésus est le seul chemin. Ce sont ceux qui s'opposent aux choses de Dieu. Bien sûr, nous pouvons être intimidés par des foules violentes brandissant des machettes, mais nous pouvons aussi être intimidés par des proches qui nous suggèrent de modifier nos croyances sur Dieu pour les rendre plus acceptables et moins extrêmes. L'intimidation ne signifie pas toujours être menacé par la force, mais nous pouvons être poussés à compromettre la vérité afin de maintenir des relations. Et Paul dit que cette pression, violente ou non, est une preuve de notre salut, du Saint-Esprit qui vit en nous, mais aussi de la perdition de l'adversaire. Alors, comment combattre un ennemi perdu? Doit-on se transformer en croisé ou en inquisition espagnole en exigeant qu'il plie le genou devant Dieu ou qu'il subisse notre colère? Ou faut-il se cacher et se faire discret dans l'espoir que les gens nous oublient et cessent d'être méchants envers nous? Ou plutôt, suis-t-on fidèlement Jésus et prie, intercède et rend grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui occupent une position supérieure, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et dignité? Oui, probablement. Et si vous voulez vraiment être encouragé, je vous recommande de lire le livre de d'Habacuc, où le prophète souffre injustement et supplie Dieu de vaincre ceux qui s'opposent à lui, mais Dieu lui montre à quoi ressemble la vraie victoire. Ok, troisièmement, la souffrance pour Christ. La souffrance pour Christ. Verset 29. Car il vous a été fait la grâce non seulement de croire en Christ, mais encore de souffrir pour lui. La souffrance pour Christ ne doit pas être considérée comme un fardeau. C'est une partie indispensable de la vie chrétienne. Et Paul dit ici que c'est une grâce même de Dieu. Je suggère pas que nous courions vers la persécution ou que nous soyons une telle épine dans le pied de notre communauté que nous invitions la persécution sur nous-mêmes, mais nous devrions nous attendre, si nous suivons vraiment les pas de Jésus, à ne pas être bien traités par ceux qui ne font pas partie de l'Église de Dieu. Paul dit que c'est une bénédiction. L'objectif est de ressembler à Jésus. Et voilà ce qu'est la sanctification, grandir en ressemblance à Christ. Et ressembler à Jésus dans ses souffrances est la preuve que nous sommes son peuple. Si vous pensez qu'il est naïf de ma part de suggérer que les choses horribles qui arrivent aux chrétiens dans le monde entier sont en fait le plan de Dieu, alors, regardons ce que les apôtres ont dit à propos de la persécution. Jacques, le livre de Jacques 1, 2 à 4. L'apôtre dit: Mes frères, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves que vous pouvez rencontrer, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse une œuvre parfaite, afin que vous soyez parfaits et accomplis, et qu'il ne vous manque rien. Et 1 Pierre 4, 12 à 19, c'est un peu long, tu peux lire, vous pouvez lire avec moi. 1 Pierre 4, 12 à 19. Bien-aimés, ne soyez pas surpris de la fournaise qui sévit parmi vous pour vous éprouver, comme s'il vous arrivait quelque chose d'étrange. Au contraire, réjouissez-vous de participer aux souffrances du Christ, afin de vous réjouir aussi avec allégresse lors de la révélation de sa gloire. Verset 14. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux, car l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous, que nous de vous ne souffre comme meurtrier, comme voleur, comme malfaiteur, ou comme se mêlant des affaires d'autrui. Mais si c'est comme chrétien, qu'il n'en rugisse pas, qu'il glorifie plutôt Dieu à cause de ce nom. Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il débute, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Verset 18. Et si le juste est sauvé difficilement, que deviendra celui qui est impie et pécheur? Ainsi, ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leur âme au fidèle Créateur en faisant le bien. Tous les apôtres, y compris Paul, ont été martyrisés pour leur foi. Ils ont mis en pratique ce qu'ils prêchaient, vraiment. Paul était en prison, attendant son exécution, quand il a écrit cette lettre. Il savait ce qu'était la souffrance. Alors, qu'est-ce que nous faisons de cette connaissance maintenant? Maintenant, c'est l'heure pour notre troisième étape. C'est quoi?
Que faire de notre connaissance?
L'application. L'application, oui. Nous savons que vivre d'une manière digne de l'Évangile signifie être unis pour l'Évangile, lutter pour l'Évangile et souffrir pour l'Évangile. Mais comment faire tout cela? En vérité, dans ma chair, en tant que Sean, dans ma chair, je n'ai pas vraiment envie de faire tout cela. Il est épuisant de chercher à savoir avec qui je peux m'associer pour exercer mon ministère. Il est également embarrassant d'être constamment la cible de moqueries comme chrétien, et il est terrifiant d'attendre la souffrance. Dois-je vraiment faire ces choses pour amour du Seigneur? Est-ce que je ne peux pas simplement croire en Dieu et lire ma Bible tranquillement à la maison sans mettre personne mal à l'aise? La vérité est que nous avons une dette envers le Seigneur pour notre vie. C'est pourquoi nous changeons notre façon de vivre et de penser en fonction de ces préceptes. Aucun d'entre nous ne vit naturellement dans un état d'obéissance au Seigneur. Chacun des commandements du Christ exige que nous soyons remplis de son esprit et soumis à sa volonté. Et ce n'est que dans ces conditions que ces commandements deviennent une joie à obéir. Chrétien, vous serez tenté de rompre la communion avec des frères et des sœurs pour des questions sans importance, et vous serez également tenté de vous joindre à de faux frères parce que c'est plus pratique. Ne cédez pas à la tentation. Résistez à l'ennemi et soyez unis dans la vérité pour la propagation de l'Évangile. Vous serez tenté de compromettre votre foi dans l'adversité en vous cachant ou en capitulant devant nos adversaires, mais résistez à l'ennemi et défendez la vérité de l'Évangile. Et vous serez tenté de penser que votre souffrance est la preuve que Dieu n'est pas avec vous, alors que c'est le contraire qui est vrai. Résistez à ce mensonge et supportez la souffrance afin que l'Évangile puisse prouver sa puissance. Paul a aussi écrit à l'église de Corinthe, 1 Corinthiens 10, 13, il dit « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Dieu est fidèle et ne peut mettre pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il donnera aussi le moyen d'en sortir pour que vous puissiez la supporter. » Ce n'est pas une tâche facile qui nous a été donnée. Chrétien, encore, obéir à Dieu t'amènera à te démarquer et à être en désaccord avec le monde. Alors, sois à l'aise en vivant de manière que ta foi soit indubitable. La vie chrétienne n'est pas une vie facile, mais c'est la meilleure façon de vivre. C'est la meilleure vie. Prions les uns pour les autres afin de rester fidèles dans nos vies chrétiennes, encourageant et soutenant nos frères et sœurs qui luttent et rappelons-leur les paroles de Saint-Esprit qui nous invitent à ne pas abandonner le combat et à nous réjouir quand nous rencontrons des difficultés pour la cause du Christ. C'est ainsi que nous devons vivre. C'est une vie digne de l'Évangile. Et enfin, une bénédiction. Que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous garde, mes amis. Que l'Éternel fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers vous et qu'il vous donne la paix. Amen.